Donc, ce qu'on va vous, vous présenter ici, c'est le résultat d'une vingtaine d'années de recherche. C'est ce que j'appelle en général, pendant mon premier cours, la conférence inaugurale. Et la conférence inaugurale, elle dure une heure, de telle sorte à planter le décor, savoir de quoi on parle. Et on va parler de quatre choses. Alors, ces quatre choses sont les suivantes. Je ne vous fais pas languir. On va parler d'éthique, évidemment. La finance islamique. Tu peux t'asseoir, Kader, parce que je vais avoir beaucoup renvoi de temps en temps. Si tu tiens debout pendant une heure, ça
va. Moi, j'aimerais m'excuser. À 20h, je dois partir. Ma collègue viendra me remplacer.
On a parfaitement le temps. Donc, on va parler d'éthique. La finance islamique est une composante de la finance éthique. On verra qu'il y a plein de manières de faire de la finance éthique. On peut faire de la finance verte, on peut faire de la finance juive, on peut faire de la finance catholique. On peut faire de la finance islamique, on peut faire de la finance a-religieuse, et pourtant éthique. Elle n'est pas forcément a-morale. On va parler de chiffres, simplement pour planter le décor en termes de quantum, combien ça représente et combien ça représente où ça sur la planète. Et on verra la place de deux endroits qui nous tiennent à cœur, la France, l'Europe et l'Afrique, qui nous est liée historiquement, culturellement, linguistiquement et pour tout un tas de raisons aussi, ne serait-ce que eu égard à la présence de communautés émigrées sur notre territoire depuis quatre générations. Les enjeux européens plus spécifiquement, qu'en est-il de la finance islamique européenne? Est-ce que c'est l'importation d'une finance islamique exotique sur notre territoire ou l'émergence d'un phénomène lié aux musulmans d'Europe? Et puis on verra que tout n'est pas rose sous le soleil d'Allah. L'industrie fait face à un certain nombre de limites, elle est encore relativement jeune, elle n'a que 40 ans, et eu égard à sa jeunesse, elle fait face à des enjeux qu'il s'agit pour nous, à l'université, de penser d'abord, et ensuite pour l'industrie, à essayer de les corriger. Alors, commençons par l'éthique, je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur la partie numéro 1, puisque là, on parle de philosophie morale, et on est là pour parler de finance et pas forcément de philosophie, mais simplement pour brosser le tableau d'un point de vue théorique. Alors d'un point de vue théorique, en français, et les termes ne mentent pas, nous avons deux mots pour signifier les exigences normatives inhérentes à une activité humaine, que sont les activités économiques, et en particulier les activités financières. Le premier mot, c'est la morale, le deuxième mot, c'est l'éthique, et ces deux termes ne sont pas interchangeables. Et encore moins chez nous, en finance islamique, où on doit faire valoir une double exigence morale et éthique. Alors, pour planter le décor d'un point de vue un peu plus précis, je pense que la meilleure référence en matière de philosophie morale, pas forcément de philosophie politique, mais en tout cas de philosophie morale, c'est Emmanuel Kant. Trois grandes questions. Que dois-je faire? Que puis-je savoir? Que m'est-il permis d'espérer? Donc, c'est ces trois grands ouvrages, Critique de la raison pure, Critique de la faculté de juger, et critique de la raison pratique. À la question « que dois-je faire ?», c'est précisément le champ de la morale. C'est le champ des principes. Et on verra tout à l'heure que les principes qui s'imposent à nous sont légèrement différents de ceux qui s'imposent à la finance éthique d'une manière générale. « Que puis-je savoir ?», c'est le champ de l'épistémologie et de l'art qui ne nous concerne pas. Et enfin, « que m'est-il permis d'espérer ?», le champ de la métaphysique. Et là, au demeurant, l'islam a quelque chose à dire de très particulier, et on verra que ça nourrit toute notre industrie. En première analyse, la morale répond à la question « que dois-je faire ?», l'éthique, quant à elle, répond à « pourquoi je dois le faire ?». Et donc, on va voir dans un second temps comment ces champs-là s'appliquent, mais d'abord, on va essayer de circonscrire le sujet de manière un peu plus précise. Alors, la morale, comme on vient de le dire, répond à l'interrogation « que dois-je faire ?». Donc nous, quand on est banquier islamique ou gérant de compagnie d'assurance islamique ou gérant de fonds islamiques, on se pose cette question en permanence, tous les jours. On verra qu'on n'est pas le seul à se poser ces questions. On a une double conformité, la conformité morale et puis la conformité réglementaire. Ce qui ne simplifie pas la chose. Le niveau de la morale, c'est le niveau de principe. Et on va voir qu'en finance islamique, c'est très simple, il y a cinq principes. C'est ce que j'ai appelé à une époque, j'ai un copyright, si vous l'utilisez, vous me devez un euro. C'est les piliers, les cinq piliers de l'islam financier. D'accord? C'est un contenu prescriptif et normatif. On doit y adhérer. On va voir lesquels ils sont ces principes dans un moment. Son épistémologie, c'est Rome. Morale, ça vient d'un terme romain. Ça a donné mœurs. Et le mode, c'est celui de l'action. Okay? En revanche, à un niveau au-dessus, le pourquoi de la morale, les raisons qui nourrissent les principes de la finance islamique, c'est celui de l'éthique. Pourquoi je dois le faire? quand la morale est silencieuse, c'est-à-dire quand les principes ne me permettent pas d'agir quand je suis banquier, et j'ai été banquier islamique, j'ai géré et fondé une banque islamique à l'intérieur d'une banque japonaise, on en reparlera tout à l'heure. De temps en temps, les principes ne me donnaient pas toutes les réponses aux questions qu'on se posait avec nos clients. Par conséquent, on interrogeait l'éthique, okay, les valeurs qui sous-tendent la morale islamique appliquée à l'économie et à la finance. C'est le champ des valeurs, c'est ce qu'on appelle le champ axiologique. Et s'il y a une première conclusion qu'on doit garder en tête, c'est que la finance islamique est une finance axiologique. Elle pose un certain nombre d'axiomes. On va voir lesquels, dans un moment, son origine, c'est Athènes, éthique, bien d'un mot grec. Et son mode, ce n'est pas celui de l'action, c'est celui de l'être, c'est celui de la posture. Qui es-tu quand tu es un banquier islamique, Xavier?
Mais je me le demande bien.
On se le demande tous les jours. Alors avant, je vous fais languir, je disais quoi ces principes, c'est quoi ces principes? On va y arriver. Mais avant ça, on va faire un tout petit peu d'étymologie, avant de faire un peu d'épistémologie. Enfin, on va arriver au caractère axiomatique de la finance islamique. Conviction et responsabilité. Vous n'êtes pas sans savoir, à la lecture de Max Weber, qu'on a lu et relu à de nombreuses reprises, Éthique protestante et esprit du capitalisme 1905, on oppose traditionnellement deux champs qui sont orthogonaux. L'éthique de la responsabilité et l'éthique de la conviction. L'éthique de la responsabilité, c'est le fait d'agir en prenant en compte, dès maintenant, ex ante, les conséquences possibles de mes actes. Et ça, c'est ce qu'on fait quand on est banquier islamique tous les jours. Quand je prête d'une certaine manière, quand je finance une telle activité, qu'est-ce que je fais en sous-jacent, en filigrane? Et puis l'éthique de la conviction, c'est justifier une action par le fait de croire en des valeurs ou des normes qui me sont données en tant que telles. Et chez Weber, c'est pas explicite. Mais au chapitre 4, Weber nous dit que ces deux modes d'action, qui ne sont pas forcément des modes d'être, sont orthogonaux, c'est l'un ou l'autre. En finance islamique, ce qui est intéressant, c'est qu'on essaye, autant que faire se peut, de les rendre parallèles. C'est-à-dire d'agir en fonction d'une certaine responsabilité, et on verra tout à l'heure que c'est une co-responsabilité, et on agit aussi parce qu'il y a un certain nombre de normes qui nous sont données d'en haut. Mais ces normes-là, il faut les interroger pour comprendre leur substance. Donc la finance islamique essaye de réconcilier les deux postures. On revient au point numéro 1, et c'est ce qu'on appelle en finance islamique la amana. Amana, ça a la même racine que Iman. Amana, ça veut dire confiance. Et Iman, ça veut dire foi. Mais vous savez quoi? En latin, c'est la même chose. Fides veut dire à la fois confiance et foi. Amana, ça a aussi une signification opérationnelle. Un dépôt en finance islamique, c'est une amana. Quand un client venait chez moi, je vous ai dit, j'ai fabriqué et géré la fenêtre islamique d'une grande banque japonaise, c'est de Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ à Dubaï. On a créé la fenêtre. La première raison pour laquelle on a créé la Dubaï, c'est de collecter des dépôts auprès des clients musulmans. Alors ce n'était pas des clients particuliers, c'était des clients entreprises et États. Le premier État qui a déposé chez nous 2 milliards de dollars, c'était le Qatar. Alors, ils ont déposé chez nous 2 milliards. Ce dépôt, techniquement, c'était une amana, une confiance. Nous, les Qataris, faisons confiance à la banque japonaise et notamment à sa fenêtre islamique pour gérer notre argent. Qu'est-ce qu'on faisait de cet argent? On était obligé de le reprêter de manière charia compliant. Alors, n'ayez pas peur, charia, ça veut dire simplement la voie, le sillon. Si vous avez des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui étaient agriculteurs, ils ont tous tracé des charias sur la terre. C'est juste la voie, le sillon. Après, on fantasme comme on veut, mais ça ne veut dire que le sillon. D'accord? C'est un terme très terre à terre. Ok? Le sillon. Alors, comme vous le savez, dans tout système juridique, un système juridique a une forme de hiérarchie des normes. Tout en haut, le Coran, bien évidemment. Ensuite, la Sunna. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire ce qu'est la Sunna, les propos et les agissements du prophète. L'Ijma, c'est le consensus des juristes depuis un peu plus de 14 siècles. Le Qiyas, c'est le raisonnement par analogie. Et l'Ijtihad, attention, il y a bien un Ij avant Tihad, c'est l'effort intellectuel rationnel. Alors, moi, quand je suis banquier à Dubaï pour les banques Bank of Tokyo Mitsubishi, que je fais des transactions de finances islamiques, si je vais voir le Coran, je vais trouver un terme qui relève de mon job deux fois. Dans la sourate numéro 2, la sourate numéro, 33, riba, qui veut dire quelque chose, riba, qu'on va trouver à gauche, qu'on va définir. Alors si je vais chercher dans les 6 à 9 000 ahadith, les propos, vous avez justement préféré rapportés par ses proches, je vais trouver un certain nombre de choses, mais ça ne va pas m'aider dans mon activité de tous les jours. Ce qui va m'aider en revanche, c'est ces trois choses-là. C'est-à-dire, je vais demander à des jurisconsultes, et j'en avais trois, c'est ce qu'on appelle un charia board, en français un conseil de jurisconsultes. Je vais demander à mes trois gugus qui sont payés par la banque, non pas en tant que salarié, mais en tant que consultant, pour me dire ce que dit le droit musulman des transactions que je propose à mes clients et qui peut-être vont aboutir à un enrichissement de la banque et du client. Qiyas, c'est le raisonnement par analogie. Si je ne sais pas trop comment traiter une question qui m'a été posée par un client, alors je vais essayer de trouver ailleurs, dans le corpus juridique, un équivalent suffisamment proche pour m'amener à trouver une solution. Et enfin, l'ijtihad, c'est l'effort rationnel. C'est-à-dire que je dois interroger la transaction, non pas simplement à l'aune des principes, mais à l'aune des valeurs, et c'est la slide suivante. Alors, quels sont ces principes? Ça fait suffisamment longtemps que je vous fais gambader intellectuellement autour de ça, on va en parler. Et c'est ça qu'il faut retenir, à mon avis. Deuxième conclusion, je dis, la finance islamique est une finance axiologique. Elle repose sur un certain nombre de valeurs et de normes. Et ces normes ont accouché de principes. Il y en a 5. 3 interdictions en rouge et 2 obligations. Troisième conclusion, la finance islamique est une finance sous contrainte. Nous avons 2 conformités. Nous devons respecter la conformité réglementaire. On a un Head of Compliance, un directeur de la conformité qui s'assure que nos transactions sont conformes avec la loi et les normes réglementaires. Mais on a une deuxième conformité, celle des jurisconsultes qui sont en board et qui s'assurent que tout ça est respecté. RIBA. Alors RIBA, si vous lisez la presse, le Financial Times, les pages chaumont du Figaro, on va vous dire RIBA c'est intérêt. Donc la finance islamique, elle interdit l'intérêt. C'est faux. Non, vous venez à Dauphine et vous vous dites, tiens, on va apprendre des choses qu'on sait déjà. Ben, c'est faux. RIBA, ce n'est pas que intérêt. L'intérêt est un cas particulier de RIBA. RIBA, c'est enrichissement sans cause. Bedi Weldemnou l'a dit hier de manière limpide. En islam, on ne peut s'enrichir qu'à l'aune de 2 activités humaines. La première, c'est le travail. D'une manière plus générale, l'effort. Il faut souffrir. Il faut mouiller la chemise, comme dirait Zinedine Zidane. D'accord ? Deuxième chose, on ne peut s'enrichir qu'à partir du moment où on fait acte de responsabilité, c'est-à-dire qu'on prend des risques raisonnés. La prise de risque est autorisée, le travail est autorisé, la thésaurisation ne l'est pas. Donc l'intérêt est un cas particulier d'enrichissement sans cause, mais il y a plein d'autres cas particuliers d'enrichissement sans cause. Un commerce illicite, tout un tas de choses, ça c'est ribaoui. D'accord ? La deuxième interdiction, elle est double, et elle est liée à la nature des contrats. En finance islamique, on n'a pas le droit de spéculer. Et on n'a pas le droit d'entrer dans des transactions qui relèvent du hasard, c'est-à-dire du risque non probabilisable. Et enfin, il ne peut pas y avoir d'incertitude contractuelle dans le sens où ce que je gagne, vous le perdez, ou inversement. Les jeux à somme nulle sont interdits, donc les dérivés, par exemple, sont interdits. Dans une certaine mesure. Il y a des dérivés qui sont possibles, mais on verra comment ils sont possibles. Enfin, il y a des secteurs qui sont évidemment prohibés, les secteurs qui sont explicitement mentionnés comme interdits. On ne va pas commencer à financer une brasserie, parce que dans le Coran, il est dit qu'il ne faut pas aller à la prière bourré. Ça, c'est le premier verset. Et le deuxième, c'est qu'il ne faut pas être bourré tout court. Donc il y a eu 2 versets, je vous rappelle, hein, le premier verset qui est tombé, c'est-à-dire n'allez pas à la prière après avoir consommé de l'alcool. Ça, c'était la première chose. Donc on peut être bourré, mais pas quand on prie. Et la deuxième, c'est qu'il ne faut pas du tout consommer de l'alcool. D'accord, c'est arrivé un peu plus tard, parce que les Arabes du 7e siècle ne savaient pas trop se tenir. D'accord. Alors ensuite, c'est pas le plus important ça. On limite souvent la finance islamique à des interdictions, à quelque chose de contraignant. Mais ça, on peut vivre avec. Ce qui est beaucoup plus intéressant, ce sont les 2 principes positifs, c'est les injonctions. Les injonctions, elles sont de 2 ordres. On va commencer par la deuxième, le partage des profits et des pertes, en principe, en finance islamique. Et c'est un principe, hein, encore une fois. On va voir qu'il y a des contrats qui sont PPP, des contrats qui ne le sont pas. Partage des profits et des pertes, ou profits et pertes partagés, comme dirait Bedi Weldemnou, qui aime bien les adjectifs plutôt que les nominatifs. Moi, je préfère partage des profits et des pertes. C'est plus sympa. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans n'importe quel contrat de finance amie, quand je fais un contrat avec un client, aussi cadre. Alors, si tu veux intervenir, m'interrompre, me contredire ou rajouter des choses, c'est quand tu veux. Juste tu lèves la main, tu fais « Ah noir, je m'arrête ». On doit partager les pertes entre les parties prenantes à la transaction. C'est quoi les parties prenantes à la transaction? C'est pas simplement la banque et son client. C'est la banque, son client, ses actionnaires, ses fournisseurs, et puis la société au sens large. Le partage des profits et des pertes rappelle les secteurs prohibés. Pourquoi on a prohibé des secteurs? Parce que la valeur sociale de ces secteurs est négative. On peut avoir une valeur positive à fumer, mais collectivement, au bout d'un certain temps, on aura 45 000 décès à cause du cancer lié au tabac. Voilà. Et ces 45 000 cancers, c'est une valeur tellement négative qu'elle réduit, et creuse le déficit social. Il en va de même pour l'alcool, il en va de même pour les armes offensives. Les armes défensives, avec tout le respect que je dois pour la grande muette, les armes défensives on peut, les armes offensives on ne peut pas. Okay ? L'adossement. Alors ça c'est le plus important. L'adossement c'est que n'importe quelle transaction financière doit être adossée à un actif tangible. Un actif tangible c'est quoi ? C'est un actif réel, ou un service, ou un droit d'usage, c'est-à-dire un usufruit. On ne peut pas faire autrement.
Dis-moi. Peut-être revenir un petit peu sur les explications des contrats financiers qui sont utilisés traditionnellement pour mieux comprendre
et J'y viens. Mais d'abord, il faut faire un détour par les valeurs. Parce que ces cinq principes, je vous les rappelle. Pas de riba, y compris d'intérêt. Pas de spéculation, définie comme étant une activité d'investissement trop courte, trop risquée, avec un rendement attendu excessif. Et ça, pour savoir quel est cet excès, il faut demander aux jurisconsultes. Troisième interdiction, pas de secteur prohibé parce que leur valeur sociale cumulée est négative. Un adossement de toute transaction financière à un actif tangible, qu'il soit d'ordre de l'ordre de l'usufruit, de la propriété, d'un actif réel qu'on peut toucher, ou d'un service. Et enfin, partage des profits et des pertes autant que faire se peut. On verra qu'un certain nombre de contrats ne sont pas PPP. Alors les valeurs. Pour rappel, les principes sont les 5 qu'on a vus. Des valeurs, il y en a beaucoup. On en a énuméré au moins 25. Je vous ai donné quelques exemples, simplement pour illustrer le propos. La première valeur, c'est celle de réalité, et elle s'applique, cette valeur, au statut de la monnaie. On en a parlé hier, hein, de la monnaie. La monnaie, je crois que j'ai 10 euros, j'ai 10 balles dans la poche. Ça, si je vous pose la question, que croyez-vous que ce soit ? C'est pas un test, hein. On n'est pas à Dauphine. Enfin, si techniquement on est à Dauphine, mais ça c'est quoi ? C'est du papier, vous avez raison. Vous avez raison, c'est la seule bonne réponse. Un papier sur lequel il y a une signature, celle de Mario Draghi, et un chiffre, c'est un contrat, et pas n'importe quel contrat, c'est une obligation. Ça, c'est une obligation au porteur. La seule différence entre ça et une obligation, c'est qu'une obligation, il y a votre nom. Là, il n'y a pas de nom. D'accord ? Il n'y a pas de nom. Ça veut dire que cette obligation, elle a un rendement. Ce rendement, contrairement à ce que vous pensez, n'est pas nul. Il est moins l'inflation. Ça, c'est du vol. À la condition que l'inflation soit trop élevée. Admettez que l'inflation soit de 100%. J'hérite de ça le 1er janvier. Le 31 décembre, mon pouvoir d'achat est nul. On pousse la logique jusqu'au bout. Admettons que l'inflation soit négative, c'est-à-dire qu'on soit en situation de désinflation, voire pire, de déflation. À ce moment-là, là, vous gagnez de l'argent, vous gagnez du pouvoir d'achat en foutant rien. C'est de l'escroquerie. Donc soit c'est du vol, soit c'est de l'escroquerie. D'où les politiques des banques centrales, en tout cas la philosophie des banques centrales, qui consiste à limiter l'inflation, qui nous vient de la Bundesbank. Ça a été la raison de plusieurs guerres, hein, l'inflation. Okay ? Non pas son symptôme, mais sa raison, une de ses raisons. D'accord ? Donc en finance, c'est pas possible. La monnaie, c'est qu'un instrument d'échange. La monnaie n'a pas de valeur. La monnaie est une mesure de la valeur, pas une valeur en soi. C'est l'économie réelle qui prime. L'inflation notionnelle n'est pas souhaitable. D'où la nécessité, non pas de créer de la monnaie ex nihilo, mais de ne créer de la monnaie qu'à partir du moment où on a une croissance réelle. Et ça, c'est un nom, ça s'appelle une politique monétaire de nature monétariste. Aux États-Unis dans les années 80. La responsabilité, c'est une valeur absolument fondamentale et il faut même la nuancer, c'est la co-responsabilité. Nous ne sommes pas responsables seuls. Le statut de la dette est sacrée. Elle constitue une responsabilité et ne, j'ai oublié le ne, fait pas l'objet d'un échange. L'endettement excessif est découragé. On verra comment ça se transcrit dans les faits. La copropriété, vous savez que contrairement à Descartes, chez les musulmans ou en islam, les hommes avec un H, donc les hommes et les femmes, les humains, ne sont pas maîtres et possesseurs de la nature. Ils n'en sont que les régents. Il l'a dit, Bédi. L'équité, ça aussi, on en a beaucoup parlé hier avec Madame le rabbin, avec Monsieur le responsable du culte protestant. Je ne sais pas quel est son statut, j'ai oublié. On n'a parlé que de ça. Et d'ailleurs, les trois religions monothéistes ne font que ça. Essayer d'organiser une forme de redistribution au moins symbolique. Ben, l'islam, c'est pareil. La justice sociale, la finance participative est encouragée. D'ailleurs, au Maroc, elle ne s'appelle pas finance publique, elle s'appelle finance participative. En Turquie, elle s'appelle Katilim Bankazi. la banque participative, pas forcément islamique, de type actionnarial et mutualiste, est encouragée. On ne peut pas spéculer, mais son contraire à 180 degrés, la thésaurisation, n'est pas non plus souhaitable. Enfin, la séquentialité, la production, le statut de la production par rapport à l'échange, Bédi en a parlé, mais aussi Madame le Rabbin, elle a dit que voilà, on ne peut échanger que ce qu'on a produit. Bon, en finance islamique, c'est la même chose, la production précède l'échange marchand, on ne peut pas vendre ce qu'on ne possède pas, la vente à découvert est interdite. Bottom line, comme on dit en bon français, servir l'économie réelle, et ce à quoi on tend, et non pas se servir d'elle pour s'enrichir. Ça n'a pas de sens. L'enrichissement ex nihilo n'a aucun sens. Alors après, à partir de ça, les jurisconsultes nous ont amenés à fabriquer un certain nombre de contrats. J'ai mis ça en anglais parce que l'anglais est plus parlant. Alors c'est tous des contrats qui commencent par mou et qui finissent par a. Mouraba, Moutajara, Moucharaka, c'est compliqué. Mais pas du tout en fait. On va parler de ces contrats dans un moment. Le contrat le plus utilisé, c'est celui-là. Mouraba. D'où ça vient ce contrat de Mouraba? C'est un contrat qui consiste pour la banque, si vous êtes client et que vous voulez acheter un frigo, une banque conventionnelle, elle va vous faire quoi? Elle va vous donner une carte de crédit conso, une carte de crédit tout simplement, elle va créditer votre carte de crédit d'une somme qui est à peu près celle du frigo plus un peu plus, histoire que vous consommiez plus, ce qui vous fait plus de rendement. Elle va créditer le compte carte et vous allez pouvoir faire vos achats. Nous, en finance amique, c'est pas possible, vous allez nous indiquer le frigo, on va l'acheter pour vous, et on va vous le revendre avec une marge. D'accord? Ce qui nous impose d'identifier un actif au préalable. Parce que la carte, vous pouvez l'utiliser pour le frigo, vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres choses, y compris consommer bien au-dessus de vos moyens. Ça, en finance islamique, c'est pas possible. Pas possible. Alors, ce qui vaut pour les particuliers, vaut aussi pour les entreprises. Alors, Mouraba, ça vient d'où? Ça vient du principe numéro 1, l'interdiction de l'intérêt. Au lieu de financer la consommation et la production, bah, ce qu'on fait, d'ailleurs, elle l'a dit, Madame le Rabbin, hier, elle a dit, dans la tradition judaïque, le prêt à la consommation doit être un prêt à taux zéro. D'accord? C'est un prêt qui n'est pas rémunéré. En revanche, le prêt de production, et on va voir qu'on ne va pas utiliser le contrat de Mouraba pour les prêts de production, on va utiliser d'autres contrats, notamment des contrats de istisna, de fabrication. La Mouraba, c'est quoi? C'est la réponse au principe numéro 1 qui est l'interdiction de l'intérêt. Comme on ne peut pas être prêteur, alors on va être commerçant. On va être marchand de biens. Donc ce qui vaut pour un frigo vaut pour un véhicule. Donc on fait bien évidemment du financement de flotte de véhicules par contrat de Mouraba. Allez à Dubaï, vous allez voir, hein, vous allez sur Serzaïd, vous allez les financements de Mouraba sur des contrats de véhicules. On peut bien évidemment, on enlève les véhicules, on met une maison, on peut bien évidemment financer l'hypothécaire. Et si on peut financer l'hypothécaire, on peut financer n'importe quel actif qui est un actif durable, okay, y compris les matières premières. Le deuxième contrat qu'on utilise souvent, c'est le contrat de leasing. Encore que vous retrouvez là, islamique lease, c'est ce qu'on appelle l'IJA. D'accord? Quand vous allez au Caire, et que vous prenez un taxi, ça ne s'appelle pas taxi, ça s'appelle Ujra. Ujra, c'est la même racine que Ijara. Ijara, c'est du lease qui consiste pour la banque, et ça, on l'a fait à de nombreuses reprises à peu près partout, on achète un bien et on le met en location. Et cette location devient un crédit bail, parce qu'au terme de la location, il y a une option de rachat à la valeur résiduelle. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec ça? Si la banque achète des stocks d'immobilier, ou de foncier, ou de véhicules, on peut acheter des stocks, les mettre en lease et ensuite les titriser pour en faire des obligations, ce qu'on appelle des soucoupes. On va voir ça dans un moment. Mais encore une fois, ces soucoupes, contrairement à des obligations émises par la BNP, elles sont adossées à des actifs tangibles. Contrat de crédit bail, contrat d'achat-revente, contrat de fabrication. Ici, c'est là. Par exemple, si vous voulez financer un film, chère madame qui est journaliste, hein, si vous voulez financer une émission de radio, c'est, vous fabriquez de l'actif intellectuel. Vous pouvez fabriquer une émission de radio avec un contrat d'istisna. On l'a fait pour des films. La vie d'Ibn Battuta. On l'a financé comme ça. Donc on a fabriqué une histoire. Et en fabriquant une histoire, on a demandé aux individus de financer ça par contrat d'istisna. Istisna, ça vient de la racine sanara, qui veut dire fabriquer. Ok? Alors, deux contrats qui me plaisent beaucoup, 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 ce sont les contrats de joint venture, de copropriété. Une banque peut parfaitement être copropriétaire d'un actif industriel avec un industriel. Et sa cote-part de copropriété baisse à mesure que l'industriel rembourse la part de financement. Et le contrat de Mouraba, c'est un contrat d'agence qui consiste pour la banque à nommer un expert agent pour son compte, c'est-à-dire pour gérer les fonds de ses clients à sa place. Par exemple, dans la gestion d'actifs, hein, on nomme un gérant gestionnaire des fonds qu'on met à la disposition de ces gens-là. Ça s'utilise beaucoup dans la gestion d'actifs, mais aussi dans l'assurance islamique. Donc on a inventé des contrats et de l'ingénierie financière de telle sorte à respecter nos principes et à respecter nos valeurs. Alors ça veut dire quoi ça concrètement ? Concrètement, il faut garder un seul chiffre, c'est celui-là. 1893, on va arrondir à 2000, c'est 2000 milliards de dollars sur la planète. Et ça, c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Moi, je suis né au Maroc, j'ai tendance à utiliser le PNB du Maroc comme ma jauge, c'est 100 milliards. Donc, Xavier le sait, la finance islamique, c'est l'équivalent de 20 Maroc. Donc c'est pas petit, hein. Vous empilez 20 Maroc, bah, ça vous donne l'industrie de la finance islamique au bout de 40 ans. Ça, c'est 40 ans. D'accord. Elle est née à peu près au même moment que moi, en 1975 à Dubaï. C'était Dubai Islamic Bank, la première banque islamique du monde. On l'appelle tous DIB. Parce que pour nous, dans notre industrie, c'est un peu la source. Quoi. Dubai Islamic Bank, allez sur leur site web, c'est une très très jolie. À mon avis, c'est la meilleure banque islamique du monde.
Et pour l'utiliser par rapport à la finance conventionnelle.
À la finance conventionnelle, c'est sur la slide, donc c'est quelque part ici, c'est 0,71% de part de marché. D'accord ? Donc on a moins d'une transaction sur 100 dans le monde. Alors c'est pas ridicule, hein, moins d'une transaction sur 100 dans le monde qui est charia compliant, conforme à l'éthique musulmane, c'est 1% de part de marché. Alors c'est mal distribué, c'est là que on verra tout à l'heure quand on parlera des limites du modèle. C'est très mal distribué parce que quand vous regardez ça, ça c'est la distribution des activités du de finance islamique par métier. Et le bleu foncé là, 80% c'est de la banque. Donc si vous nous interrogez, vous me dites bah, dans la vie de tous les jours, vous faites quoi? Je dis en fait, j'ai déjà répondu. On lève des dépôts et on octroie des crédits. C'est vraiment la finance de mon grand-père. Il est lorrain. Il a fait toute sa carrière à Pompée.
Là, il avait sa
compte, je ne sais pas dans quelle banque à l'époque, aujourd'hui c'est le Crédit Mutuel.
Lever des dépôts, octroyer des crédits, c'est de la banque à l'ancienne.
Si vous regardez la désintermédiation financière, c'est-à-dire la gestion d'actifs, les fonds, c'est que 3%, 60 milliards. Les émissions obligataires qu'on appelle chez nous soukouk, mais c'est la même chose qu'une émission obligataire, encore une fois adossée à des actifs tangibles, ce n'est que 17%. Et l'assurance, c'est ridiculement petit à 1,3%. Si vous prenez l'économie américaine, c'est exactement l'inverse. D'accord ? Marchés obligataires sont totalement désintermédiés, financent plus de la moitié de l'économie. Le reste, c'est plus les banques, c'est les fonds. D'accord ? Donc en fait, nous, on représente l'économie du Sud. Et c'est mon mentor chez Bank of Tokyo qui me disait ça, c'est très simple la banque en fait. Lui, il est japonais, donc il est ni au nord, ni au sud, ni à l'est, ni à l'ouest. Il est sur son île. C'est une planète à part entière. Il y a la Terre, Pluton et le Japon. C'est comme ça qu'ils se définissent. Hein. Donc ils sont sur leur île, ils regardent le monde comme ça, de manière, d'ailleurs avec un peu de distance. Ils sont très japonais, hein. Toujours cette distance, même physiquement, hein. Faut pas trop s'approcher. Et il nous disait, quand il était à la banque, il disait, la banque c'est simple. Au nord, il faut gérer de l'épargne. Au sud, il faut faire des crédits hypothécaires. Et Bank of Tokyo dans le monde, c'était exactement ça. Au nord, on faisait du corporate et de l'asset management. D'ailleurs, on parle d'Amundi qui a dépassé la barre symbolique du trillion. Hein, ils sont à 980 milliards d'euros, ça fait 1 trillion de dollars. C'est gros, Amundi. Et bien, la nôtre, qui s'appelait MUTB, on avait dépassé le trillion depuis 10 ans. D'accord ? C'est très gros, le Japon. Et ça, c'est qu'une des quatre grandes banques. Le total bilan, c'était 3 000 milliards. Comment ils faisaient ça ? Au sud, ils lèvent des dépôts, ils font des crédits. Au nord, ils gèrent l'épargne des riches. D'accord ? Parce qu'on a déjà tout. Une ou deux maisons, une ou deux voitures, un chien, une famille, d'accord ? On a déjà tout, qu'est-ce qu'on a besoin d'emprunter davantage ? D'accord ? Les Japonais. Donc nous, à Dubaï, on traitait essentiellement des pays pauvres, l'Égypte, le Maroc, donc on levait des dépôts au Qatar pour faire des crédits au Maroc. Ok ? Alors, en termes de taux de croissance, effectivement, le taux de croissance a un peu baissé après la crise financière. Là, on est reparti comme en 40, mais sur la longue période, ce qui nous intéresse, le taux de croissance, il est de l'ordre de 10% en moyenne annuelle, par opposition à la finance conventionnelle, malgré le quantitative easing, qui n'est que de 2,8%. Donc typiquement, on a une croissance 4 fois supérieure à la moyenne mondiale. Alors encore une fois, c'est parce qu'on est meilleur, parce qu'on est plus intelligent, simplement un phénomène de rattrapage, les musulmans du monde sont plus nombreux, plus riches, ont plus d'enfants, et le PNB par habitant augmente, c'est pas d'une complexité inouïe. De toute façon, la finance, d'une manière générale, c'est pas d'une complexité inouïe. Hein. Plus, moins, divisé. Multiplié de temps en temps.
Okay. Alors, là où ça a vraiment bien marché, c'est les émissions obligataires. Vous avez dit, hein, c'est à peu près 14% de la finance islamique mondiale. Mais il faut savoir que quand on a commencé, je suis arrêté en 2014, j'aurais pas dû, il y avait des statistiques plus récentes, mais j'ai pas eu le temps. On a commencé en 2000, il n'y avait aucune émission obligataire. Bon, moi, j'ai commencé en 2001, il n'y avait aucune émission obligataire islamique dans le monde. Il y a eu quelques essais fin des années 90 qui n'ont pas très bien marché. Et puis aujourd'hui, on est sur, alors ça c'est les flux, hein, c'est les émissions annuelles, on est à 1 maroc par an, 100 milliards. D'accord ? Ce qui n'est pas complètement ridicule, sachant d'où on vient. Alors ce qui est intéressant, c'est que, et ça va vous parler tout de suite, en bleu, ce sont les émetteurs souverains et quasi-souverains, c'est-à-dire les États et les entreprises publiques. Pourquoi on émet des soukouks ? Pour les infras. La plupart des États, l'Indonésie, la Malaisie, l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Maroc, émettent des soukouks parce que c'est adossé à des actifs tangibles. Ces actifs tangibles sont des infrastructures créatrices d'externalités positives. C'est quoi une externalité positive ? En fait, une route, ça vous coûte de l'argent, mais ça permet de connect the dots, hein, comme disait. Alors, en Arabie, ça a été pour les aéroports, essentiellement. En Malaisie, ça a été les hôpitaux. Beaucoup l'agriculture, à une époque. Voilà, au Maroc, c'est des écoles. Ok. Donc là, l'émission de soukouk marocaine, 1 milliard de dirhams, qui a eu lieu en octobre 2018, s'était adossée à des actifs écoles, 4 écoles publiques. Alors, on s'est dit, bon, on vit dans une niche en fait. On vit entre nous, et on est copains, Kader il les connaît tous. Moi pas trop, parce que je suis un peu autiste, mais lui il les connaît tous. On s'est dit, on est trop entre nous. On va demander aux autres ce qu'ils en pensent. Donc quand j'étais chez les Japonais, merci Banco Tokyo pour ce slide que je leur emprunte et faut que je leur dise, ça c'est vite. On a demandé à tous nos investisseurs de Californie jusqu'au Japon, investisseurs en fixed income, c'est-à-dire en obligation, investisseurs obligataires. On leur a demandé, avez-vous au moins dans votre portefeuille une ligne qui est une ligne soukouk ? 99,9%. C'est-à-dire 999 sur 1000 nous ont dit oui, dans notre portefeuille, pour nous-mêmes ou pour nos clients, en investissement propre ou en investissement pour tiers, avez-vous au moins une émission de soukouk en portefeuille ? Oui, on a. Intéressant, c'est-à-dire partout dans le monde, aujourd'hui, les investisseurs obligataires considèrent que les soukouks, les émissions islamiques, sont des obligations comme les autres. Elles sont adossées à des actifs tangibles, mais bah, finalement, ce sont des instruments financiers comme les autres. Alors, on a poussé la logique un peu plus loin, et puis on leur a dit, là, on a interrogé pas simplement nos clients en asset management, c'est-à-dire en gestion d'actifs, mais nos clients corporate et étatiques, quelles sont les initiatives ? Et on a trouvé des traces de finance islamique dans 80 pays. Aussi saugrenus que la Corée du Sud, Hong Kong, la Thaïlande, Singapour, alors tous les pays musulmans évidemment, mais on a une banque islamique en Allemagne. La première émission de soukouk en Europe, ça a été en Allemagne, c'était un des Länder, le Land de Saxe-Anhalt. Je ne savais même pas que ça existait, le Land de Saxe-Anhalt. Saxony-Anhalt became the first European soukouk issuer. Premier émetteur de soukouk, ça a été un des Länder allemands. D'accord ? General Electric a émis des soukouk, la Banque mondiale a émis des soukouk, et je vous en passe des meilleurs. Après, on pourra parler d'innovation financière et qui a émis des soukouk intelligents. On va voir l'existence de Smart Soukouk. Le dernier en date, c'était des soukouk adossés à des vaccins par le Gavi. Vous connaissez le Gavi, Gavi. Vous connaissez le Gavi, non ? C'est une organisation internationale en faveur de la vaccination des pays les plus pauvres. Vous avez des soukouks adossés à des vaccins. Alors, il y a deux grands marchés. Dans notre jargon, on appelle ça Kismut et Imia. Kismut, c'est les pays où la finance islamique est déjà bien enracinée. Vous allez, il n'y a pas avoir de surprise pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à la géopolitique, c'est-à-dire 100% des gens ici. Le Qatar, évidemment, pays où on habite. L'Indonésie, 150 millions de musulmans. L'Arabie Saoudite, la terre des lieux saints. La Malaisie, depuis Mohamed Mahathir en 1982, les Émirats Arabes Unis, et notamment Dubaï, qui veut devenir la capitale mondiale de l'économie islamique, rien que ça, et la Turquie, depuis Erdogan. Pas de secret. Et puis vous avez les nouveaux marchés,
l'Europe, y compris la Russie. Saviez-vous que 17% de la population russe était musulmane? Tatarstan, Daghestan et Tchétchénie, c'est dingue. Et aujourd'hui, la Russie sont juste à côté. D'ailleurs, vous savez, ici, c'est le siège de l'OTAN. Et là-bas, à une encablure, c'est l'ambassade de Russie. Il y avait des grandes oreilles des deux côtés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, c'est plus haut. Donc, il y a une plongeante sur les salons du rez-de-chaussée. On y va souvent avec, pas à l'époque communiste, hein, on n'était pas nés ou à peine, mais on y va souvent maintenant parce qu'on a un ami là-bas qui veut faire ça. Il veut commencer par la formation, d'où le fait de venir nous voir. Le Maghreb, le Maroc notamment, qui s'est lancé de manière explicite aujourd'hui, hein, c'est plus du tout caché, dans la finance dite participative. L'Égypte, parce qu'on est en train de flirter avec les 100 millions d'habitants. L'Iran, dont la finance islamique a une part de marché de l'ordre de 15%, mais ils veulent continuer de la part. Et puis l'Afrique, qui bientôt va compter un demi-milliard de musulmans. Très sous-bancarisé, le niveau de bancarisation moyen en Afrique est de l'ordre de 14%. Donc à partir du moment où les Africains vont se bancariser, ben forcément ils vont consommer de plus en plus halal. Alors, les enjeux européens, et je vais accélérer parce que il faut que Kader quitte et que je souhaite qu'il intervienne à bon escient et sur les bons sujets qui l'intéressent. Les enjeux européens, d'abord sachez que l'Europe s'intéresse au sujet de plus en plus, mais dans un cadre qui s'institutionnalise aussi de plus en plus. Il y a de plus en plus d'institutions à caractère plus ou moins officiel, officiel au sens régalien, étatique, qui organisent l'industrie. L'IOFI s'occupe de la normalisation des règles musulmanes, des règles juridiques, mais aussi des normes de gouvernance, mais aussi des normes de comptabilité. L'IFM.
Alors peut-être préciser que pour la IFI, les normes existent en français, en anglais, en arabe. Ils ont été traduites récemment, mais en arabe, en français.
L'IFM est un think tank qui s'occupe essentiellement d'innovation financière, notamment pour la désintermédiation, Islamic Capital Markets et le marché monétaire. Le CBAFI, General Accounting, Islamic Banking and Finance, Kader Souri, parce que c'est un copain qui le gère, un ancien consultant qui est aussi passé par l'IFSB, CBAFI. Alors lui, c'est un club de banque. Donc si vous êtes une banque, nous par exemple, Bank of Tokyo, on pourrait parfaitement être membre de ce club. Alors ce club essaye d'organiser de manière intrinsèque, de manière endogène, l'industrie pour lui donner un second souffle. On verra tout à l'heure qu'elle peine un petit peu, en tout cas intellectuellement, elle a du mal à se positionner. Donc le CBAFI réfléchit à la manière dont la finance islamique peut avoir un impact sociétal positif, notamment sur l'industrie du green, notamment sur les fintechs, et notamment sur le financement des activités sociales, le logement social, l'eau, etc., la médecine. Liquidity Management Center, on a un gros problème en finance islamique, c'est qu'on ne sait pas trop bien gérer la liquidité. La liquidité, elle se gère avec des instruments de taux. Et malheureusement, nous, les seuls instruments de taux qu'on a, c'est les soukouks, et les soukouks, il n'y en a pas assez. Et enfin, on a une agence de notation, Islamic Rating Agency. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait d'analyse crédit, hein, comme n'importe quelle agence de notation, mais en plus, elle fait des notations dites charia, c'est-à-dire qu'elle mesure la conformité des banques et des compagnies d'assurance et des fonds à l'application des opinions des jurisconsultes, qu'on appelle fatwa, comme vous savez. Alors, on est en pleine croissance, on est en phase de croissance rapide. Ça, c'est la courbe de vie d'une activité économique. La finance est une activité économique. La phase d'innovation, c'est les années 60-70. La phase de décollage, 1970-2000, notamment quand on a commencé à bancariser les populations du Golfe. Et ensuite, on a eu les chocs et contre-chocs pétroliers. Depuis 2000, on est en phase de croissance rapide. On ne sait pas quand on va atteindre le degré de maturité. On en est encore très loin, ça, on le sait. Et c'est confirmé par les chiffres de la Banque islamique de développement. Ça, ce sont les chiffres les plus récents. Je vous ai dit, hein, on s'était arrêté tout à l'heure à 2017, hein, les 2 points quelque chose trillions, entre 2 et 2,1 trillion. Donc là, les estimations de la Banque islamique de développement, en 2021, on sera entre 3 et 4 trillions. Et en 2035, là, on sera autour entre 10 et 15 trillions. 10 et 15 trillions, c'est l'équivalent de la dette fédérale américaine. D'accord ? Pas mal, hein? Ok. Alors, on va parler maintenant, pour nous amener petit à petit aux limites du phénomène, on va parler de l'écosystème, et de l'écosystème européen, français, européen et africain. Donc, l'écosystème, c'est quoi? À chaque fois que vous analysez un système financier dans un pays donné, si on vous demande, par exemple, d'aller faire une étude au Rwanda et de comprendre comment le financement d'économie du Rwanda se fait, il y a 3 modalités de financement de l'économie, les banques, les marchés de capitaux, donc les émissions obligataires, les actions, les fonds, notamment les fonds immobiliers, et enfin les compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance participent au financement de l'économie, comme vous le savez. Donc cet écosystème, il est évidemment interrelié. Les banques ont besoin des marchés de capitaux parce que les banques investissent leur excédent de liquidité dans des titres. Les marchés de capitaux ont besoin des compagnies d'assurance quand elles collectent les primes pendant un temps avant que les sinistres commencent à arriver, soit de manière concave, soit de manière convexe, soit de manière linéaire. Les compagnies d'assurance investissent leurs primes dans des actifs financiers et la banque aujourd'hui ne peut pas faire des activités de banque sans des activités d'assurance. D'accord ? Vous faites un crédit, vous avez besoin d'une assurance. Vous achetez une maison à crédit, vous avez besoin d'une assurance. Vous achetez un véhicule à crédit, vous avez besoin d'une assurance. Donc aujourd'hui, on parle de banque assurance. Et dans notre jargon, nous, on parle de banque à Takaful. Parce que l'assurance en financement s'appelle le Takaful. Je vais passer sur le slide suivant qui n'a pas grand intérêt pour nous intéresser à l'Europe. Alors l'Europe, c'est intéressant. Ça dépend de ce que vous appelez Europe géographiquement. Dans sa définition la plus large, l'Europe est l'hôte de 40 millions de musulmans. Dans sa version un peu plus restreinte, c'est-à-dire l'Union européenne, on est entre 10 et 12 millions de musulmans. 10 et 12 millions de musulmans, ça fait plus que la Tunisie, plus que le Sénégal. 40 millions, ça fait plus que le Maroc et la moitié de l'Algérie. Et ça fait la moitié de l'Égypte. Donc c'est quand même un marché intéressant. Et pour la banque islamique, ce marché, il se concentre essentiellement là. C'est là que les banquiers musulmans qu'on a interrogés ont le regard tourné. Le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, la France, la Belgique et le Royaume-Uni. Le UK, déjà équipé. Le Royaume-Uni, bon, maintenant, ils ne sont plus avec nous. On le regrette, mais c'est comme ça. Ils ont déjà 5 banques islamiques pour une population de 1,5 million de musulmans. Là, on a 12 millions de musulmans et on a une toute petite banquette qui appartient aux Koweïtiens en Allemagne. Donc forcément, à un moment ou à un autre, on va voir arriver une banque islamique sur le territoire. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans chacun de ces pays ? Alors au Royaume-Uni, je vous ai dit, il y a 5 banques, 2 banques privées, 2 banques d'affaires, 1 banque pour les particuliers. En France et au Luxembourg, on a des initiatives, mais elles sont éparses et très mal coordonnées. On a un contrat d'assurance vie, on a eu des petites émissions de soukouk à La Réunion. Ça vous intéresse au premier chef. Une banque mutualiste dont je ne citerai pas le nom propose des contrats de finance islamique pour l'immobilier uniquement et de manière extrêmement discrète pour ne pas faire de vagues. En Bosnie, vous avez une banque pour les particuliers qui s'appelle Bosna Banque Internationale, d'ailleurs qui appartient aux amis de DIB, c'est pour ça que je n'ai pas été passé là-bas. Et enfin, l'Allemagne, vous avez une petite banque qui fait essentiellement des transferts. Qu'est-ce qu'elle fait, cette banque-là ? Elle collecte les dépôts des Turcs d'origine allemande et de confession musulmane pour les envoyer en Turquie, de telle sorte à accumuler de l'épargne en lire turque ou en euros pour acheter sur place la maison secondaire, un business, le business des parents ou des beaux-parents. Alors ce qu'il faut faire, et si on parle de France en particulier, je vous ai promis qu'on parlait de la France, aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face, les musulmans de France et de Navarre n'arrêtent pas de venir ici à Dauphine pour nous dire quand est-ce qu'on va avoir une banque islamique. On a demandé à la BNP, Société Générale, Crédit Agricole, on leur a dit. Et la Société Générale, BNP, Crédit Agricole et les autres nous ont dit oui, il y a un marché. Clairement, il y a 1 million de ménages qui seraient intéressés de consommer des steaks halal, mais aussi une carte de crédit halal. Mais si moi, Société Générale, j'approche de manière frontale cette clientèle, j'en perds 3. Parce qu'il y a 3 millions de mes clients qui vont dire « Mais Société Générale, vous n'avez rien à foutre là-dedans. Plus une laissez tomber !» Mais oui, ça va partir comme une traînée de peau. Donc, les grandes banques se disent « Ah, c'est dommage de ne pas pouvoir accéder à ces clients, comme Auchan, comme Casino. Il y a des rayons halal, tout ça. Mais la nourriture terrestre est moins sensible que l'argent. C'est pour ça que hier, Xavier Guézou, tu as fait une conférence sur l'argent et les religions. L'argent a un statut particulier dans les religions. Un steak halal, c'est pas la même chose qu'une carte de crédit halal. Pour moi, c'est pareil, parce que je suis autiste, hein, je n'ai pas d'émotion, donc pour moi, c'est la même chose. Mais visiblement, pas pour les gens. Bon, c'est comme ça. Alors, la BNP a dit, on sait qu'il y a un marché, il y a 1 million de clients potentiels, mais si je sers ce million de clients potentiels, il y en a 3 qui s'en vont. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il n'y a pas d'autre choix qu'un pure player. Alors, pure en anglais, pure player. C'est-à-dire une banque qui viendrait, alors on ne sait pas par qui elle sera capitalisée, par qui elle serait capitalisée, qui viendrait et qui dirait, bon, écoutez, moi, je ne fais que ça. D'accord ? Je ne suis, alors, une boucherie que halal. Ben, moi, je ne suis une banque que halal. Et oui, je sais que je vais me faire caillasser, je vais me faire insulter, je vais faire ceci, je vais me faire cela, mais je ne m'adresse pas à vous. Je ne m'adresse qu'à la clientèle, musulmane ou pas, chrétienne, juive, athée, mais qui souhaite consommer halal. Quand vous allez à la boucherie halal, vous n'avez pas que des clients musulmans. Hein. Mon beau-père, un peu musulman, ils consomment à l'âge sans problème, ben, ils pourraient parfaitement venir dans cette banque-là si elle est plus compétitive, si elle est plus sexy, si elle est plus intéressante, si elle est plus fun, comme dirait Xavier Lépine hier.
Ou plus éthique.
Ou plus éthique, et si elle arrive à faire passer ce message. Alors, qui sont ces actionnaires promoteurs? On a longtemps cru que ce serait un Qatari, un Saoudien, une banque des Émirats, tout ça, c'est pas vrai, ils s'intéressent pas à nous. Quand ils allument la télé et qu'ils regardent BBC ou CNN ou voir les chaînes France 24 arabique ou anglais, non, c'est trop cher, c'est trop loin, ils ne comprennent pas. Ils comprennent, ils préfèrent les frontières market, l'Afrique. Donc, il ne faut pas trop compter sur nos amis du monde arabe pour faire ça. Quel modèle d'affaires? Essentiellement la gestion de l'épargne pour commencer avec un peu de banque privée. Quel positionnement stratégique? Forcément digital et technologique. Quelle différenciation, comme l'a dit Xavier, qualité, service, disponibilité, temps et éthique? Quel marché? L'eurozone, bien sûr. Puis l'UE et pourquoi pas l'euromed. À partir de quel pays? Il y a un pays qui a clairement montré sa volonté d'avoir une banque islamique sur son territoire. C'est le Luxembourg, et c'est la raison pour laquelle ils ont émis des soukouks en 2015 pour 200 millions d'euros. 200 millions d'euros pour Luxembourg, c'est à peu près peanuts. Hein.
C'est rien du tout. Hein.
Deuxième PNB, troisième PNB par habitant sur la planète, hein. Norvège, Qatar, Luxembourg. Les premières places financières européennes pour les fonds. Donc eux, ils n'ont pas de religion, d'accord? Même si c'est un pays catholique, eux, ils veulent une banque islamique sur les territoires. Et pour signifier ça et envoyer un signal, ils ont émis une obligation islamique en 2015. Ils n'étaient pas obligés. Quelle équipe best in class? Il vous faut vraiment les meilleurs financiers islamiques de la place, sinon vous allez perdre en crédibilité. Il faut qu'elle soit éthique et efficace. Quel métier? Banque privée, gestion d'actifs, gestion de l'épargne. Je vous rappelle, on est dans le Nord, on a déjà tout. Quelle perspective? Peer-to-peer, crowdfunding, banque d'affaires et fintech. Quel ton de texte? Paradoxalement, le contexte actuel n'est pas un frein. C'est étonnant. Quand vous demandez aux régulateurs du Luxembourg, ils ne vous disent pas du tout ce qui se passe en France, en Belgique, tout ça. C'est des questions qui ne nous concernent pas. Et on a le sentiment que ça ne concerne pas l'islam, en fait. Que c'est autre chose. On ne connaît pas trop, donc on ne va pas se mouiller, mais ça n'a rien à voir. D'accord? Donc il me dit, oui, d'accord, venez chez nous, pas de problème. Quel mot d'ordre? Religare. On va parler de religare. Faire le lien. Faire le lien. Alors nous, à Dauphine, les premières 5 années qu'on a passées ici, le thème générique du master, c'était construire des ponts et des passerelles entre les mondes. Et la deuxième salve depuis 5 ans, quand on a construit ces ponts, c'est innover, créer du neuf et servir la communauté humaine. Alors, un territoire qui nous est très 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 proche, notamment cette partie du territoire, l'Afrique. Alors là, vous voyez plein de points orange et de points verts. Les points verts, c'est ce qui existe. Donc vous voyez que la finance islamique, elle s'implante. Et c'est intéressant, elle ne vient pas forcément de nos amis arabes du Golfe, là, d'ici. Il y a aussi des institutions qui sont des générations spontanées des musulmans d'Afrique. Et puis, les projets en rond ou en losange, soit des banques, soit des émissions de soukouk. Et donc, vous voyez qu'il y a quand même une jolie implémentation d'Afrique francophone. Ce n'est pas les anglophones qui sont en avance du tout. Hein. C'est vraiment l'Afrique francophone, et notamment l'Afrique de l'Ouest, et notamment le Sénégal, qui s'y intéresse pas mal. Alors, je vous ai un peu saoulé, donc je vais accélérer pour finir. Je vous ai dit, hein, en commençant, c'était une boutade, tous les paroses sous le soleil d'Allah, loin de là. On a plein de problèmes auxquels j'étais confronté moi-même, techniquement, opérationnellement. On est beaucoup trop intermédiaire. On fait beaucoup trop de dépôts pour octroyer des crédits et pas assez de gestion d'actifs. Donc, on n'est pas assez prévoyant, clairement. Prochaine crise, on dit oui, les actifs islamiques dans le monde sont gigantesques, oui, mais ils sont fragiles, hein, un crédit ça fait défaut, alors que l'épargne un peu moins. La gestion d'actifs est très peu ou pas existante, le takaful est extrêmement sous-développé, on n'est pas prévoyant pour un sou, on n'assure pas suffisamment nos économies, nos entreprises, nos infrastructures et nos populations. Les soukouks, c'est un franc succès, mais ça reste dominé par les États. Tout ça a reçu des coups de pouce assez explicites de la part des États, au premier rang desquels la Malaisie. Encore une fois, hein, l'Arabie Saoudite fait extrêmement peu de prosélytisme pour la finance islamique. D'ailleurs, les 3/4 de leurs banques ne sont pas islamiques en Arabie Saoudite. Encore un autre paradoxe de l'Arabie Saoudite. La gestion de la liquidité pour nous est compliquée parce qu'on n'a pas assez d'instruments de taux. La qualité de l'offre n'est pas à la hauteur des exigences des clients. Hein, on l'a remarqué à de nombreuses reprises, à part DIB, qui est une banque absolument sublime. Hein, les agences du Crédit Agricole n'ont strictement pas liré d'envie devant les agences de DIB, mais enfin, c'est une banque un peu plus petite. Mais à part quelques best in class, la plupart des banques islamiques sont assez pauvres en qualité. Elles sont encore un peu chères. Les capacités d'innovation sont très faibles. Pourquoi? Parce que le capital humain est faible. Les banques d'affaires islamiques n'existent pas. Donc aujourd'hui, les infrastructures sont financées avec de la dette, non pas avec des fonds propres. D'ailleurs, la Banque islamique de développement, je les conseille, donc je peux vous dire que leur prochain modèle, c'est ça. je vais mettre de l'equity. Le projet s'appelle Rise. Et j'en dirai pas plus. Enfin, on parle de marché, la finance dynamique. Il n'y a pas une finance dynamique, il y a des finances dynamiques très fragmentées par pays. Faire la finance dynamique au Sénégal, j'ai une boîte, c'est son deuxième pays d'adoption, il adore le Sénégal. Faire la finance dynamique au Sénégal, c'est pas faire de la finance dynamique au Luxembourg et encore moins en Arabie Saoudite et en Malaisie. Donc en fait, on a des marchés fragmentés qu'il faut pouvoir relier à un moment ou à un autre. Les jurisconsultes ne sont pas d'accord entre. Oh, vous,
tout, mais ça, vous, c'est normal. Un juriste n'est jamais d'accord avec
un. Alors, c'est des juristes musulmans. Alors, il faut savoir, l'islam, deux grandes familles, chiites, sunnites. Chez les chiites, ils sont 12. Il y a 12 écoles de pensée. Hein, les Jafaris, Dieu des Simains et tout le bazar. Chez nous, les sunnites, on en a 4. À peu près bien répartis géographiquement, quoique il y a des mélanges. Les malikites, les chafiites, les hanafites et les hanbalites. D'accord ? On s'entend pas. Ce qui est autorisé en Malaisie ne l'est plus au Maroc. Donc moi, toute ma banque à Dubaï, là, ma fenêtre, ça fait à peu près 11 milliards de bilan, mais 11 milliards, ils étaient terriblement chafiites. Terriblement. Donc je pouvais faire à peu près ce que je voulais, y compris des mouvements bas sur commodities. Donc j'achetais et je vendais des métaux toute la journée pour financer des clients. Alors, j'ai dit, avec mes gros sabots, je suis allé au Maroc, j'ai dit, je vais faire la même chose. Ils m'ont dit, non, bah non, vous pouvez pas. Alors je fais quoi? Alors, vous allez faire autre chose, il faut inventer des choses plus clean. Ça veut dire que les autres sont pas clean. Non. C'est clean, mais chez eux. Là, les Malaisiens, ils font ce qu'ils veulent, mais chez eux. Les Japonais, ils font ce qu'ils veulent, mais chez eux. Mais chez nous, non, c'est pas possible. Mais, alors, il faut comprendre les conséquences que ça a. C'est une boutade, mais les conséquences que ça a. Ça veut dire qu'on ne peut pas gérer de la liquidité sous commodity Moulama. Ça veut dire que je ne peux pas faire de repo avec la Banque Centrale. Je ne peux pas accéder à la fenêtre de refinancement de la Banque Centrale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a une banque islamique qui est sur le point de faire défaut pour des raisons de liquidité, et c'est ce que j'ai dit au ministère de Finances il y a 10 jours quand on a fait les sous. J'aurais dit c'est simple. Pour une banque islamique, il y a deux options. Une alternative. Je meurs de manière charia compliant ou je crève de manière haram. Je fais quoi? C'est dur quand même. D'accord? Alors je leur ai dit, il faut inventer un mécanisme d'accès à la fenêtre de refinancement pour survivre de manière halal. Dit c'est impossible. Il dit avec le CSO, le Conseil supérieur des Oulamas, pour l'instant, c'est pas possible. D'accord. Il y a des questions opérationnelles qui se posent. Alors, ces questions opérationnelles, c'est ça. On a toujours été beaucoup trop dépendant du pétrole. Quand le pétrole va, la finance dynamique va. C'est comme Obélix. Geographic concentration. On est très concentré sur deux hubs. La Malaisie, leader mondial de l'asset management islamique et du takaful islamique, mais assez pauvre en banque. Et le Golfe, très fort en banque, mais pauvre sur les deux autres. Et puis, on est trop intermédiaire. C'est vraiment la banque de grand-papa, grand-maman. D'accord ? Pas assez dans le nouveau. C'est fini tout ça, hein, on va passer au fintech. Donc il nous faut du capital humain, de l'innovation, c'est exactement ce qu'on fait à Dauphine, on agite des idées comme ça, de telle sorte à essayer de diversifier un peu le bazar pour être moins dépendant des Arabes du Golfe, moins dépendant des Malaisiens, parce qu'on a notre propre histoire à raconter, notamment au Maghreb, beaucoup moins dépendant du pétrole. Bon, nos amis algériens, ils ont du pétrole, nous au Maroc on en a, mais on ne s'en sert pas, on l'a pas encore vraiment trouvé, et des intermédiaires, parce que les générations on a aussi nos millénials, hein, vous n'avez pas le monopole des millénials. Si vous voyez les nôtres, les jeunes de 25 à 35 ans au Maghreb, franchement la banque de papa-maman, ils n'en veulent plus. Hein, ils veulent du smartphone, mais en même temps ils se disent, bah, on est musulmans, on aimerait consommer halal, pourquoi vous nous imposez les taux d'intérêt, on ne veut pas. D'accord ? Ils nous le disent, hein, tout le temps. Vous savez que vous allez interroger les notaires à Casablanca, une transaction hypothécaire sur quatre aujourd'hui est halal. Intéressant, hein ? Une transaction hypothécaire, c'est des gens qui achètent des maisons à crédit. C'est pas les anciens, hein, qui achètent des maisons à crédit.
L'ouverture du marché marocain, c'était janvier 2018. Il y a 5 banques marocaines pour toutes trouver des partenaires internationaux, Qatar, américains, et 3 banques françaises.
Ouais, 3 françaises, Crédit Agricole, BNP, Société Générale. Alors elles ont toutes des noms bizarres, j'en parlerai tout à l'heure. Vous savez que c'est la première fois dans l'histoire de la Société Générale qu'une marque ou une filiale, dans tout son réseau, n'a pas la couleur rouge et noir. Couleur du...
Du diable.
C'est fou, hein. C'est fou, hein. C'est la première fois. Elle s'appelle Dar al-Aman, ça veut dire la maison de la confiance.
C'est joli.
Et c'est orange sur blanc. On peut pas faire plus.
On dirait un truc de funéraire.
Orange sur blanc. Ah non, c'est hyper tendance le orange et le blanc. Orange is the new black. Pardon me, my dear. D'accord ? Donc, Les régulateurs s'adaptent au Maroc, au Afrique de l'Ouest, un peu partout ça s'est adapté. Améliorer l'impact sur l'économie réelle et la société, ça y est, c'est parti. On l'a dit hein, ici, bien avant tout le monde, si la finance islamique ou l'éthique musulmane des affaires n'est pas plus green, c'est-à-dire ne s'intéresse pas plus à l'économie sociale et solidaire, à l'impact durable, au green et au social, alors elle perdra son âme, elle va se dévoyer, et quand quelque chose se dévoie, elle dégénère. D'accord ? Donc elle fera ça, pas ça. Donc il faut qu'elle s'occupe davantage des humains, attirer davantage de qualité de capital humain. Pour faire ça, il faut davantage de pensée et beaucoup moins d'opérationnel. C'est vrai qu'aujourd'hui, les banquiers ne pensent plus. Très peu. Engagement et sponsorisation. Il ne faut pas simplement faire que du business. Il faut faire aussi autre chose et inventer de nouveaux modèles, dont des modèles de fondation, le WACF dont on n'a pas parlé. Et enfin, favoriser l'expansion des institutions financières islamiques là où elles font sens. Là où elles ne font pas sens, ça ne sert à rien. Pas de prosélytisme, ça ne sert à rien. D'accord ? Il faut installer des institutions là où ça fait sens. C'est-à-dire répondre à une demande qui est manifeste, pas simplement l'attente. D'accord ? Alors, pour vous parler des banques, j'ai fini, hein. Pour vous parler des banques au Maroc, une petite anecdote. Donc, je vous ai dit, c'est Al-Aman, la maison de la confiance orange sur fond blanc pour Société Générale. Rien à voir avec son code couleur et sa charte graphique. Deux, alors Najma, c'est plus simple. BNP. BNP, c'est Najma. Vous voyez, le logo de la BNP, c'est des étoiles blanches sur fond vert. Et étoile en arabe, ça se dit Najma. Donc, ils ont choisi simplement de renvoyer à leur logo. Et puis, la dernière, c'est. Ah oui, Crédit du Maroc. Crédit du Maroc. C'est la filiale marocaine à 63% du Crédit Agricole France. Et eux, c'est Al-Reda. Al-Reda, Al-Reda. C'est... comment on peut traduire Al-Reda ? Al-Reda, c'est la...
Satisfaction.
Oui, mais avec bonne foi. Radi, Radi, ça veut dire je suis cool, je suis zen. C'est le peaceful. D'accord ? T'arrives à point nommé parce que j'ai fini mon speech et on va attaquer les questions. Ciao, tard, joueur.